C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi à la présentation. C'était Yacouba Ouédraogo. Je vous reviens à 17h, heure de Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. Élisée Rumpati devant ce micro. Ce soir, on reviendra sur l'annulation de la CAN féminine. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le continent? On parlera également de la formule trouvée par la CAF pour finir cette deux compétitions des clubs. La Ligue des Champions et bien évidemment la Coupe de la Confédération. Et puis, fin de saison au Sénégal. Pas de champion ni de relégué. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants. En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yama Yama nous rejoint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosouro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir, bonsoir aux auditeurs de la VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Comme vous le savez, l'ASV Club de Kinshasa est désormais dirigé par Destine Kazadi comme pour reprendre le flambeau paternel. Heureuse de son retour au pays, elle a remercié tous les acteurs pour la confiance placée en elle et promis faire le maximum pour être digne de cette confiance qui lui permettra de poursuivre l'œuvre de son père Chichichi Kazadi. Elle nous livre ses impressions en exclusivité sur VO Afrique.
Je suis née dans V-Club, j'ai grandi dans V-Club. Mon père m'a insufflé cette passion, cet amour. J'ai, je pense, le mental de gagneuse. Je pense avoir aussi l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe. Je veux unir, rassembler autour de moi tout le monde. À partir du moment où vous êtes disponible pour être au service de Vita Club, apporter le maximum, le meilleur de soi-même, nous allons travailler ensemble. J'ai aussi envie de vous dire tout de suite que j'ai une envie de changement. Le changement, c'est-à-dire que je voudrais que Vita Club devienne un club omnisport autonome, qu'il ait son propre capital, qu'il ait ses fonds propres, qu'il soit une équipe moderne. Je veux aussi insuffler dans le mental des supporters, des amis de Vita Club, ce que j'appelle le football business. Je pense que pour aller très loin, pour être compétitif, il faut de l'argent, il faut produire de l'argent, il faut produire du revenu. Et pour ce faire, il faut que le Vita Club se comporte comme une société commerciale à objet sportif. Pour pouvoir négocier des contrats, pour pouvoir signer des partenariats avec des grands clubs, pour pouvoir identifier des joueurs qui vont servir l'équipe pour former les jeunes. Et tout cela autour de l'équipe d'un rassemblement.
Lawal Dine Kosouro. Sceptique, vous l'étiez lundi dernier. Après la voix écoutée, les lignes ont-elles bougé de votre côté?
Apparemment, un tout petit peu, parce que elle a l'air de maîtriser ce pourquoi elle a été élue. Et le fait d'avoir fait cet appel de pied à tous les acteurs du foot congolais et notamment à tous les grands de l'ASV Club, cela me permet de croire que, avec un peu de bonne foi, les choses pourraient peut-être évoluer. Et c'est la main tendue, c'est ce que je disais lundi dernier. Si elle sait manager, ça pourrait marcher.
Et aujourd'hui, ce club aura encore un soutien financier fort, un soutien politique, connaissant la position de Destine Kazadi.
Et c'est tout cela mis ensemble qui l'aidera à réussir cette mission. Si le soutien est formel, franc du côté de tous les acteurs du foot, de tous les responsables à divers niveaux de l'ASV Club, je pense qu'elle pourra relever le défi.
Valdo, vous êtes à Kinshasa. Comment le retour de Madame Kazadi a-t-il été accueilli? Les défis énormes pourront-ils être relevés?
Élisée, disons que Destine Kazadi a été très bien accueillie. Elle a débarqué vers 2h du matin et il y avait du monde jusqu'à cette heure-là. Certains supporters ont passé plus de 5h pour l'attendre, et ce qui démontre à suffisance qu'elle est la bienvenue. S'agissant des défis, elle est animée de bonnes intentions. Elle vise une véritable révolution assise sur l'unité du club à tous les niveaux, gage d'un succès garanti, estime-t-elle. Elle veut gagner avec et pour l'AS Vita Club, faire des Vita un grand club d'Afrique avec des titres tant au niveau des interclubs de la CAF qu'au niveau du championnat national. Le défi est grand. Au-delà des objectifs du club, elle se fixe aussi ses propres objectifs, toujours dans l'intérêt des Banambongo, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Mais attention, elle n'a pas totale confiance de tous les supporters, puisque certains pensent que les changements tant attendu n'a jamais eu lieu. Bestine Kazadi n'est qu'une continuité du général Amissi. C'est donc son management très attendu qui pourra faire taire toutes ces divergences, puisqu'au cas où il y aurait crise, le club aura du mal à se redresser.
À Médine, une femme à la tête d'un club de l'élite, au même moment, la CAF annule la CAN féminine. N'est-ce pas de la négligence du foot féminin?
C'est vraiment dommage, Élisée, car au moment où un club, le Vita, club du Congo pour ne pas le nommer, porte à sa tête une femme, ce qui constitue une première en Afrique, la CAF décide d'annuler la CAN féminine. Je pense que c'est injuste, car il fallait simplement reporter et ne pas annuler cette compétition majeure du foot féminin. C'est vrai que les éliminatoires n'ont pas encore démarré jusqu'à présent. C'est vrai également que le Congo qui devait accueillir cette compétition a fait faux bond, mais pour moi, ce n'est pas une raison. C'est vrai qu'il y a la pandémie, mais pour cette compétition, ce n'est pas seulement la pandémie. Il y a négligence de la part de la CAF. Je pense que le football féminin ne mérite pas ça. Le football féminin au niveau du continent qui tente à se développer doit être encouragé, accompagné. Donc la CAF doit revoir sa copie par rapport à cette décision. Élisée.
Valdo, peut-on attribuer ces bouleversements à la seule pandémie du Covid-19? N'y a-t-il pas d'autres raisons?
Au-delà de la pandémie, je pense que les choses sont claires avec le football féminin sur le continent. Tenez, c'est à peine que la CAF vient de mettre en place une compétition au niveau des clubs, alors que nous savons tous qu'il a toujours existé une Coupe d'Afrique des Nations des Dames. La FIFA finance le développement du football féminin à travers les fédérations membres. Et d'ailleurs, il y a peu, cette même FIFA a octroyé 500 000 dollars américains à chaque association membre. Mais le football féminin reste toujours le maillon faible de toutes les compétitions de la CAF. D'ailleurs, une pétition serait à initier pour tenter de faire changer d'avis la CAF sur sa décision. Là encore, le management de la Confédération africaine serait remis en cause, puisque la décision de mettre en place la Ligue des champions féminines devrait être un élément moteur pour ne pas annuler cette CAN et ainsi encourager les filles à la pratique du football. Autant la CAN, les CHAN ont été reprogrammés, je crois qu'au lieu de sacrifier cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, la CAF devrait en principe procéder également à sa reprogrammation.
Amin Birouk, il y a une foultitude de compétitions, mais c'est seulement la CAN féminine qui est suspendue. Qu'est-ce qui explique cet état de choses?
Ça en dit long sur la place qu'occupe le football africain dans l'échéancier, dans le calendrier, dans la vision de la CAF pour l'instant. Ça en dit long aussi sur l'ordre des priorités pour la Confédération africaine de football. Les compétitions les plus rentables, celles qui donnent au football africain le plus de visibilité, que ce soit sur le plan de l'audiovisuel ou sur le plan financier, sont privilégiées par rapport à la CAN féminine. Souhaitons juste que ce ne soit qu'un pas en arrière pour mieux rebondir et surtout, souhaitons aussi que la Champions League africaine, qui verra le jour la saison prochaine, puisse prendre le pas, puisse prendre plus d'importance afin de donner au football féminin la place qu'il mériterait à l'échelon continental.
Lawal, le foot féminin est en voie d'être sacrifié, surtout au niveau des équipes nationales. D'ailleurs, le président de la FIFA et son secrétaire ont fustigé cela. Maintenant, est-ce pour des raisons économiques que la CAF a fait cette option?
Oui, Élisée, on pourrait le dire parce que le foot féminin, c'est pas assez connu en Afrique et il n'y a pas assez de sponsors qui mettent la main à la poche pour soutenir le foot féminin. Donc, la raison est toute trouvée. La CAF n'a pas intérêt à organiser la CAN féminine dans ces conditions parce que déjà que pour la CAN masculine, c'est déjà compliqué. Les sponsors pourront-ils être au rendez-vous? La CAF veut formellement miser sur l'aspect économique.
Mais c'est mon point de vue. Ce n'était pas mieux de décaler aussi cette CAN féminine au lieu de la suspendre définitivement?
Non, il faut reconnaître que la CAF a trouvé une formule, celle de faire des compétitions de clubs au niveau donc des clubs féminins. Mais cela va formellement poser un problème aux équipes nationales. C'est un sacrifice carrément du foot féminin au plan des équipes nationales. Mais c'est un mauvais challenge de la CAF parce qu'on ne peut pas, à ce niveau-là, empêcher les équipes africaines d'avoir de la compétition dans les jeunes, parce que la CAN représentera donc une sorte de répétition générale.
Justement, on ne peut pas vouloir faire la promotion des clubs et négliger les équipes nationales.
C'est mal pensé, je ne sais pas à quoi pensait Ahmed Ahmed et ses collaborateurs en acceptant de carrément annuler la CAN alors qu'on veut promouvoir les clubs. Maintenant, l'un dans l'autre, la CAF n'a pas intérêt à ce que la CAN se déroule parce que, au plan financier, ça pèse pas lourd dans le budget de la CAF.
On enchaîne avec les compétitions africaines de clubs. La CAF a déjà fait ses choix pour la Coupe de la Confédération. Le Final Four se jouera au Maroc, mais en Ligue des Champions, côté camerounais, on fait grise mine. Reportage sur place d'Emmanuel Jules Tapa.
La sérénité est de mise à la Fédération camerounaise de football. L'Africa Foot et la CAF sont toujours en discussion. Confie sous anonymat à VOA Afrique, un cadre de l'instance fertile de football camerounais, qui ajoute que les deux demi-finales ont induit des contraintes objet d'examen côté Cameroun. Rien ne filtre cependant, officiellement, sur le type de contraintes auxquelles le Cameroun ferait face. Le pays, on le sait, s'est doté de nouvelles infrastructures hôtelières, routières et sportives. Le stade de Japoma, où va se disputer la finale de la Champions League dans la banlieue de Douala, est une fierté nationale. Bobo Fabien est consultant sportif.
Le Cameroun est capable d'organiser une compétition majeure de la CAF. Nous avons construit nos infrastructures pour abriter les grandes compétitions africaines et du monde entier.
Le respect du protocole sanitaire dans un contexte de COVID-19 en dehors ou dans les stades est un véritable nœud gordien pour le Cameroun actuellement. La CAF devait donc en prendre conscience, soutient cet amateur de football.
Il est important pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour la CAF, de trouver d'abord des mesures de sécurité sanitaire afin de programmer cette échéance sportive. Les Camerounais, en tant qu'amoureux du football, ne vont pas se priver de jouir de cet événement tel que nous l'avons prévu à cause de cette pandémie.
Plus de 14 000 cas de nouveau coronavirus ont été déclarés au Cameroun, avec plus de 11 000 cas de guérison. Toutefois, les autorités du pays semblent prudentes en ce qui concerne les grands rassemblements. Thierry Roland Enom est membre de la commission marketing du CHAN 2021 et de la CAN 2022.
Il ne sert à rien d'aller à tout prix vers l'organisation de compétitions sportives. Un événement viendrait d'éteindre sur cette compétition que l'image du pays en prendra. Il faut faire attention.
La Fédération camerounaise de football envisagerait par exemple l'annulation de la Coupe du Cameroun de cette année pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.
Lawal, selon certaines sources à la CAF, le Cameroun aurait décliné l'offre d'organiser le Final Four de cette compétition.
C'est regrettable pour le Cameroun parce que ce Final Four servira donc de répétition et de jauge pour les différentes installations en cours de réalisation dans le pays. Mais on connaît les Camerounais pour leur susceptibilité parce qu'on leur avait déjà arraché la CAN 19.
Non seulement, est-ce que le Cameroun est véritablement prêt pour accueillir des compétitions internationales, parlant des infrastructures?
C'est là même le challenge. Le Cameroun aurait pu accepter d'abriter le Final Four.
Si le Cameroun n'était pas prêt.
Oui, s'ils étaient prêts. Maintenant, cela relance le débat sur les infrastructures, sur la construction même, le retard observé, tout ce qu'on a entendu dire par rapport au Cameroun. Cela cache forcément quelque chose. Le Cameroun est-il prêt pour 2022?
Déjà 21 d'abord.
21 pour le CHAN, on avisera en son temps. Pour le CHAN, vous savez qu'on peut ne pas prendre assez de stades. On peut prendre les deux plus grands stades et caser les équipes là. Mais pour la CAN, il faut élargir un peu. Mais les Camerounais ont ceci de particulier. On dirait que c'est une nation de foot, mais au niveau donc des infrastructures, de l'organisation, même de certaines
surtout
compétitions,
de l'organisation,
ils ont des difficultés. Mais il était important pour le Cameroun d'accepter. Ils l'ont refusé. C'est regrettable pour eux. Et là, croisons les doigts pour que 2022 ne leur échappe pas non plus.
Ahmedine Sy, face à cet imbroglio, que peut faire la CAF?
Je comprends un peu quand même les Camerounais Élysées, ils sont prudents car dans leur pays, la situation n'est pas encore maîtrisée. Comme vous le savez, il y a plus de 14 000 cas au niveau du Cameroun, donc les Camerounais restent prudents. Et puis, il y a l'aspect sportif. Aucun club camerounais n'est concerné par cette compétition par rapport aux Marocains, par rapport à tout ça, Élysée.
Alors, Amine, selon les infos, la fédération égyptienne aurait obtenu l'approbation de ses autorités pour demander à la CAF l'organisation de ce Final Four en Ligue des Champions. Une demande devrait même être déposée dans les prochaines heures.
Tout à fait, devant certainement le refus des autorités camerounaises d'accueillir coup sur coup demi-finale et finale, il y a des possibilités qui s'ouvrent devant la Fédération égyptienne de football. L'État égyptien n'a jamais caché sa volonté d'accueillir de grands événements sportifs sur le plan africain. C'est une possibilité qui se pose devant la présence de deux clubs égyptiens, de façon à pouvoir leur assurer les meilleures conditions possibles pour peut-être une finale rêvée entre l'Ali et Zamalek. Il va falloir voir maintenant si la Confédération africaine de football va recevoir cette proposition de candidature et s'il n'y a pas d'autres candidatures qui se manifestent d'ici là, parce que les deux clubs marocains et la Fédération marocaine de football seraient également intéressés pour accueillir cet événement. Maintenant, il est vrai que voir le Maroc accueillir les demi-finales de la Coupe de la CAF, la finale de la Coupe de la CAF et également cette édition 2019-2020, ce Final Four de la Champions League, ce serait un peu trop. Voir aussi s'il n'y a pas d'autres fédérations, d'Afrique du Nord en particulier, qui seraient intéressées qu'à de la Tunisie. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont des informations à mettre au conditionnel en attendant les candidatures officielles, notamment celle de l'Égypte, qui devraient peut-être être effectives dans les prochaines heures.
Lawal, en Égypte, la situation sanitaire est vraiment critique. C'est environ 1500 à 1600 contaminations par jour selon l'OMS. Finalement, c'est à la CAF de juger et de se déterminer.
Oui, la CAF doit juger, se déterminer. Il faut voir au niveau organisationnel, au niveau logistique, ils sont au point par rapport à d'autres pays africains. Au niveau de l'organisation de compétition, l'Égypte est déjà rodée pour l'organisation assez réussie de la dernière CAN. Donc, c'est de bon droit que l'Égypte demande le Final Four, parce que les stades qu'on a au Caire, à Ismaïlia, à Alexandrie, c'est de grands stades.
L'Égypte avait même demandé à la CAF de délocaliser cette compétition aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, l'occasion.
Oui, l'Égypte est en train de faire volte-face. Oui. Et c'est assez intéressant pour eux de renoncer à la délocalisation, c'est déjà quelque chose d'assez important. Maintenant, ici, si la CAF doit rester sincère envers elle-même, elle doit pouvoir accepter que l'Égypte organise cette compétition.
Mais il y a aussi la Tunisie et l'Algérie qui sont là.
Oui, la Tunisie et l'Algérie. Tous ces pays-là sont contaminés par le coronavirus à des taux très élevés.
L'Angola aussi a des infrastructures, a de très bons stades.
Dans ce rayon-là, il y a qu'on doit pouvoir penser aux défis sanitaires. Il ne faut pas prendre le risque d'organiser une compétition et de ramasser les pots cassés après au plan sanitaire. Donc, les responsables de la CAF doivent véritablement réfléchir à ce qu'il faut faire parce qu'on ne peut plus annuler cette compétition. Maintenant, vous parlez de l'Angola, à des infrastructures, mais l'Angola n'est pas un pays qui me semble assez stable pour accepter de faire une compétition dans ces conditions-là. Vu les conditions économiques de l'Angola, cette option n'est même pas à envisager. La CAF a intérêt à rester dans le Maghreb en pensant aux conditions, aux défis sanitaires qui doivent pouvoir être relevés.
Au Bénin, la Fédération sénégalaise de football a tout arrêté. Pas de champion, pas de promu et ni de relégué. Alors qu'il était décidé en temps de continuer le championnat en novembre en mode play-off. On écoute justement Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football.
Le comité exécutif a décidé de mettre purement et simplement un terme définitif aux différents championnats de la saison 2019-2020. De ne pas décerner de titre pour la saison, compte tenu du ratio de matchs disputés. Donc, il nous paraissait difficile de décerner des titres sur des bases de ratio de matchs joués aussi faibles. Nous avons aussi estimé de la même manière que pour cette année, aucun club ne serait promu, mais aussi aucun club ne serait relégué. Pour la saison à venir, nous avons estimé qu'en ce qui concerne les compétitions africaines, les équipes qui allaient représenter le Sénégal seront les équipes les mieux classées de Ligue 1 à la dernière journée de la phase aller du championnat professionnel, de fixer le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021 au 31 octobre 2020.
À Médine, on l'a beaucoup attendu, c'est chose faite désormais.
tout à fait, Élisée, comme le Bénin, au niveau du Sénégal, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a décidé d'arrêter. Je pense que c'est une décision sage, comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais, car au niveau de la Fédération sénégalaise de football, on avait décidé quand même de reprendre les compétitions au mois de novembre sous forme de play-off et des play-down, une décision qui avait quand même créé beaucoup de polémiques à ce moment. Donc, ils sont revenus sur leur décision en décidant d'arrêter. Mais il y a un problème puisque ils ne veulent pas décerner quand même des titres. Il n'y a pas de champion, il n'y a pas de relégué. Cela pose problème puisqu'un club comme Tenguech FC qui a survolé cette année la compétition au niveau de la Ligue 1, car après 13 journées, Tenguech était leader avec 12 points d'avance sur son dauphin, le Djaraf. Maintenant, on prend la décision de ne pas décerner ce titre. Ça pose problème alors qu'on a désigné Tenguech qui va représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions et Djaraf en Coupe de la CAF. Je trouve ça anormal, mais la fédération a fait un geste qu'il faut saluer à sa juste raison. Ils ont mis beaucoup d'argent, car les clubs de première division vont recevoir chacun 15 millions et les clubs de Ligue 2, 10 millions de francs CFA. Je pense que c'est une bonne chose. La fédération a sorti la bagatelle d'un milliard pour quand même aider tous les clubs professionnels et amateurs. C'est une bonne chose. Mais concernant l'aspect sportif, le fait de ne pas désigner un champion, je pense que c'est une erreur de la part des fédéraux au niveau du Sénégal Élysée.
Alors, Lawal, contrairement au Sénégal, au Bénin, la fédération a libéré les subventions au club avant de prononcer la suspension du ces championnats.
Oui, c'est extraordinaire. Et pour une fois, on a fait les choses en grand à la fédération. J'ai suivi un peu le président d'un des clubs de la vallée de Louémé, Asvo notamment, qui a dit pendant le confinement tout ce qui a été fait grâce à ces subventions-là que la fédération a vite libéré. Parce que c'était déjà suffocant pour les uns et les autres. La libération des subventions a forcément été un ouvre de soulagement.
Mais la déception, c'est que certains clubs n'ont pas payé les joueurs jusqu'à aujourd'hui.
Oui, là, c'est des questions internes. On sait comment on gère les clubs. Et c'est en cela qu'on se pose la question si la réforme, là, qu'on est en train d'envisager pourra véritablement marcher. Parce que si c'est le président seul qui détient le cordon de la bourse et qui a déjà investi assez de millions dans le club et qu'aujourd'hui on lui donne les subventions, il va chercher à compenser ce qu'il a déjà
dévié. Vous cautionnez cela ?
Je ne le cautionne pas, mais c'est comme ça que les clubs ont été gérés tout le temps. Maintenant, la réforme, si ça avait été bien mûri, avec une période transitoire, on aurait cloué le bec à tous ces présidents-là qui véritablement croient qu'ils ont la toute-puissance sur les clubs et gèrent comme ils veulent. Maintenant qu'on n'a pas fait de période de transition, on verra bien comment ça va se passer.
Valdo, en RDC, le foot reprend ses droits le 1er octobre comme décidé par la fédération. Dans quel état d'esprit se prépare cette reprise alors que le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot ?
Élisée, les clubs de la RDC font bloc et tentent de faire les forcings pour un lendemain meilleur quant à la reprise du football. Les finances étant les soucis majeurs pour tous ces clubs, ils se sont décidés de mettre en place des stratégies qui peuvent les soulager tant soit peu. Ils plaident pour la mise en place du fonds pour la promotion du sport en s'appuyant sur une disposition de la loi sportive promulguée en 2011 et qui n'a jamais été d'application. Les clubs de la RDC attendent impatiemment la levée de l'état d'urgence pour qu'ils se mettent au travail. Ils profitent de cette situation pour solliciter la mise en place d'un plan de relance dans les secteurs du football, autant il en existe dans d'autres secteurs. Il est évident que tous seront fixés lors de la très attendue réunion d'évaluation avec l'organisateur du championnat, puisque c'est au cours de la dite réunion que seront tirés au clair les préalables et les exigences quant à une possibilité de la reprise du football à leur niveau, en attendant que les autorités du pays donnent leur avis sur la question.
Amine Birouk, chez vous, la faveur de la reprise est assez grande. Les clubs se préparent activement comme le Raja et le Wydad qui ont opté pour des stages de concentration. Tout peut-il être prêt pour le 24 juillet prochain ?
Tout est prêt, les clubs sont déjà en concentration. La plupart d'entre eux ont choisi des villes côtières pour éviter la vague de chaleur qui s'annonce au mois de juillet. Les horaires ont été étudiés de façon à ce que le championnat puisse se dérouler de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire des matchs programmés à 18h, 20h et 22h locales. Il y aura la fameuse pause d'hydratation. Et puis, pour l'instant, on est passé à la deuxième phase d'entraînement, des entraînements collectifs. Il y aura des rencontres amicales. Il y a des clubs qui ont programmé pas moins de 4 rencontres en moyenne. Seul Wydad, pour l'instant, est réticent à disputer ses matchs amicaux. mais le Wydad et le Raja sont concentrés. Le Raja préférait s'installer dans un luxueux hôtel de Casablanca et partager ses entraînements entre son complexe sportif et la plage. Et puis le Wydad qui a préféré aller à Agadir, s'éloigner de la pression. Ce sont deux clubs qui seront en lice pour la Champions League africaine. La plupart des clubs marocains donc sont à pied d'œuvre pour que la reprise du championnat soit une réussite totale. Et on attend avec impatience le redémarrage de la Botola à partir du 24 juillet.
Sporama, c'est fini. Merci Amine Birouk. Je rappelle que vous intervenez depuis Casablanca au Maroc. Merci aussi à Valdo Simbo Yamayama depuis Kinshasa en RDC. À Medine.